ils fermèrent leur devanture. Sans doute elle avait eu un empêchement, et elle en souffrait aussi. Mais quelle joie tout à l'heure, car elle allait venir, cela était certain. Elle me l'a bien promis. Cependant, une angoisse intolérable le gagnait. Par un mouvement absurde, il rentra dans l'hôtel, comme si elle avait pu s'y trouver. À l'instant même, elle arrivait peut-être dans la rue. Il s'y jeta. Personne. Il se remit à battre le trottoir. Il considérait les fentes des pavés, la gueule des gouttières, les candélabres, les numéros au-dessus des portes. Les objets les plus minimes devenaient pour lui des compagnons, ou plutôt des spectateurs ironiques, et les façades régulières des maisons lui semblaient impitoyables. Il souffrait du froid aux pieds. Il se sentait dissoudre d'accablement. La répercussion de ses pas lui secouait la cervelle. Quand il eut 4 heures à sa montre, il éprouva comme un vertige, une épouvante. Il tâcha de se répéter des vers, de calculer n'importe quoi, d'inventer une histoire. Impossible. L'image de Madame Arnoux l'obsédait. Il avait envie de courir à sa rencontre. Mais quelle route prendre pour ne pas se croiser? Il aborda un commissionnaire, lui mit dans la main 5 francs et le chargea d'aller rue Paradis chez Jacques Arnoux pour s'enquérir près du portier si Madame était chez elle. Puis, il se planta au coin de la rue de la Ferme et de la rue Tronchet, de manière à voir simultanément dans toutes les deux. Au fond de la perspective, sur le boulevard, des masses confuses glissaient. Il distinguait parfois l'aigrette d'un dragon, un chapeau de femme, et il tendait ses prunelles pour la reconnaître. Un enfant déguenillé qui montrait une marmotte dans une boîte lui demanda l'aumône en souriant. L'homme à la veste de velours reparut. Le portier ne l'avait pas vu sortir. Qui la retenait? S'il était malade, on l'aurait dit. Était-ce une visite? Rien de plus facile que de ne pas recevoir. Il se frappa le front. Ah, je suis bête, c'est l'émeute. Cette explication naturelle le soulagea. Puis, tout à coup, mais son quartier est tranquille. Et un doute abominable l'assaillit. Si elle allait ne pas venir. Si sa promesse n'était qu'une parole pour m'évincer. Non, non. Ce qui l'empêchait sans doute, c'était un hasard extraordinaire. Un de ces événements qui déjouent toute prévoyance. Dans ce cas-là, elle aurait écrit. Et il envoya le garçon d'hôtel à son domicile, rue Rumford, pour savoir s'il n'y avait point de lettre. On n'avait apporté aucune lettre. Cette absence de nouvelles le rassura. Du nombre des pièces de monnaie prises au hasard dans sa main, de la physionomie des passants, de la couleur des chevaux, il tirait des présages. Et quand l'augure était contraire, il s'efforçait de ne pas y croire. Dans ses accès de fureur contre Madame Arnoux, il l'injuriait à demi-voix. Puis, c'était des faiblesses à s'évanouir, et tout à coup des rebondissements d'espérance. Elle allait paraître. Elle était là, derrière son dos. Il se retournait, rien. Une fois, il aperçut à 30 pas environ une femme de même taille, avec la même robe. Il la rejoignit, ce n'était pas elle. 5 heures arrivèrent. 5 heures et demie. 6 heures. Le gaz s'allumait, Madame Arnoux n'était pas venue. Elle avait rêvé la nuit précédente qu'elle était sur le trottoir de la rue Tronchet depuis longtemps. Elle y attendait quelque chose d'indéterminé, de considérable néanmoins, et sans savoir pourquoi, elle avait peur d'être aperçue. Mais un maudit petit chien, acharné contre elle, mordiait le bas de sa robe. Il revenait obstinément et aboyait toujours plus fort. Madame Arnoux se réveilla. L'aboiement du chien continuait. Elle tendit l'oreille. Cela partait de la chambre de son fils. Elle s'y précipita pieds nus. C'était l'enfant lui-même qui toussait. Il avait les mains brûlantes, la face rouge et la voix singulièrement rauque. L'embarras de sa respiration augmentait de minute en minute. Elle resta jusqu'au jour, penchée sur sa couverture, à l'observer. À 8 heures, le tambour de la garde nationale vint prévenir M. Arnoux que ses camarades l'attendaient. Il s'habilla vivement et s'en alla en promettant de passer tout de suite chez leur médecin, M. Collot. À 10 heures, M. Collot n'étant pas venu, Mme Arnoux expédia sa femme de chambre. Le docteur était en voyage, à la campagne, et le jeune homme qu'il remplaçait faisait des courses. Eugène tenait sa tête de côté, sur le traversin, en fronçant toujours ses sourcils, en dilatant ses narines. Sa pauvre petite figure devenait plus blême que ses draps, et il s'échappait de son larynx un sifflement produit par chaque inspiration, de plus en plus courte, sèche et comme métallique. Sa toux ressemblait au bruit de ces mécaniques barbares qui font japper les chiens de carton. Madame Arnoux fut saisie d'épouvante. Elle se jeta sur les sonnettes, en appelant au secours, en criant « Un médecin! Un médecin !» 10 minutes après, arriva un vieux monsieur en cravate blanche et à favoris gris, bien taillé. Il fit beaucoup de questions sur les habitudes, l'âge et le tempérament du jeune malade, puis examina sa gorge, s'appliqua la tête dans son dos et écrivit une ordonnance. L'air tranquille de ce bonhomme était odieux. Il sentait l'embaumement. Elle aurait voulu le battre. Il dit qu'il reviendrait dans la soirée. Bientôt, les horribles quintes recommencèrent. Quelquefois, l'enfant se dressait tout à coup. Des mouvements convulsifs lui secouaient les muscles de la poitrine et dans ses aspirations, son ventre se creusait comme s'il eût suffoqué d'avoir couru. Puis, il retombait la tête en arrière et la bouche grande ouverte. Avec des précautions infinies, Madame Arnoux tâchait de lui faire avaler le contenu des fioles, du sirop d'ipecacuanha, une potion kermétisée, mais il repoussait la cuillère en gémissant d'une voix faible. On aurait dit qu'il soufflait ses paroles. De temps à autre, elle relisait l'ordonnance. Les observations du formulaire l'effrayaient. Peut-être que le pharmacien s'était trompé. Son impuissance la désespérait. L'élève de M. Collot arriva. C'était un jeune homme d'allure modeste, neuf dans le métier, et qui ne cacha point son impression. Il resta d'abord indécis, par peur de se compromettre, et enfin prescrivit l'application de morceaux de glace. On fut longtemps à trouver de la glace. La vessie qui contenait les morceaux creva. Il fallut changer la chemise. Tout ce dérangement provoqua un nouvel accès plus terrible. L'enfant se mit à arracher les linges de son cou, comme s'il avait voulu retirer l'obstacle qui l'étouffait. Et il égratignait le mur, saisissait les rideaux de sa couchette, cherchant un point d'appui pour respirer. Son visage était bleuâtre maintenant, et tout son corps, trempé d'une sueur froide, paraissait maigrir. Ses yeux hagards s'attachaient sur sa mère avec terreur. Il lui jetait les bras autour du cou, s'y suspendait d'une façon désespérée, et en repoussant ses sanglots, elle balbutiait des paroles tendres. « Oui, mon amour, mon ange, mon trésor !» Puis, des moments de calme survenaient. Elle alla chercher des joujoux, un polichinelle, une collection d'images, et les étala sur son lit pour le distraire. Elle essaya même de chanter. Elle commença une chanson qu'elle lui disait autrefois, quand elle le berçait en l'emmaillotant sur cette même petite chaise de tapisserie. Mais il frissonna, dans la longueur entière de son corps, comme une onde sous un coup de vent. Les globes de ses yeux saillissaient. Elle crut qu'il allait mourir, et se détourna pour ne pas le voir. Un instant après, elle eut la force de le regarder. Il vivait encore. Les heures se succédèrent, lourdes, mornes, interminables, désespérantes. Elle n'en comptait plus les minutes qu'à la progression de cette agonie. Les secousses